Vous pouvez chercher le livre des Proverbes. Vous savez, depuis quelques années, l'application Twitter est devenue un principal moyen de communication dans le monde de l'information. Tout le monde tweet maintenant. C'est sûr qu'on ne dit pas tout par un tweet, c'est limité à 140 caractères. Mais vous savez, un seul tweet peut contenir beaucoup plus que des pages et des pages de rédaction. Et en fait, le livre des Proverbes, c'est un peu comme le Twitter de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui a eu l'idée d'abord. Et c'est vrai, par rapport au reste de la Bible, on n'est pas très habitué au style des Proverbes. Ce ne sont pas des lois comme des 10 commandements. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est clair, c'est un commandement. Ce ne sont pas comme des promesses, des prophéties, comme on peut trouver dans les prophètes. Le Messie va naître à Bethléem et qui vont s'accomplir certainement. Ce ne sont pas comme des lettres pour l'Église, les épîtres que nous étudions souvent dans notre Église, où les instructions sont là. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ vous a pardonné. Voilà, c'est pas ce qu'on trouve dans les Proverbes. Les Proverbes, c'est autre chose. Alors, c'est quoi un proverbe? Eh bien, un proverbe, c'est comme un tweet, comme je disais, c'est un condensé de vérité. Souvent exprimé de manière poétique, de manière imagée, pour nous faire réfléchir et pour nous aider à vivre en accord avec la réalité de Dieu. Alors, il y en a plein de proverbes, je retiens quelques-uns pour des exemples, mais j'aime celui-ci. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et l'on examine. Une bonne sagesse de vie. Bien sûr, comme un tweet, un seul proverbe ne dit pas tout. Et souvent, il faut les mettre ensemble. Alors, vous allez tomber peut-être sur ce proverbe et être surpris. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Et vous dites, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Alors, là encore, c'est peut-être pas littéralement qu'il faut le prendre. Ça ne veut pas dire que certaines ici devraient aller habiter au désert Sahara cette semaine. Et mourir de soif, et après causer encore plus de problèmes. Peut-être il faut mettre ce proverbe avec un autre. J'avance. Un homme colérique excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. Donc cette femme querelleuse, peut-être elle est excitée par un mari colérique, et c'est à lui de revoir sa copine. Donc, il y a bien des proverbes, même celui-ci, le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Et on se dit, comment ça marche quand on réfléchit aux chrétiens persécutés? Est-ce que ce proverbe était vrai même dans la vie de Jésus, qui a chancelé un jour sur sa croix, où les méchants ont habité le pays d'Israël? Donc, vous voyez, ces proverbes sont un peu différents, ils demandent un art de réflexion et d'interprétation. C'est pour ça que quelqu'un a dit que les proverbes sont comme des bonbons durs. Il vaut mieux les sucer pour retirer leur douceur que de les croquer et se casser les dents. Quand vous avez une sucette, certaines croquent tout de suite et après vous n'avez plus de sucette. D'autres font durer le plaisir. Les proverbes, c'est un peu comme ça. Il faut les méditer. Ceci dit, je vous ai donné quelques proverbes, quelques phrases qu'on trouve dans ce livre des proverbes, mais le livre dans son ensemble ne commence qu'avec les proverbes proprement dit, à partir du chapitre 10. Et les premiers chapitres du livre, qui va nous intéresser ce matin, chapitres 1 à 9, c'est plutôt une introduction, où Salomon va encourager notamment son fils, ses fils, à vouloir cette sagesse de Dieu, à vouloir écouter les proverbes qui vont donner par la suite dans les chapitres 10 à 31. Mais les premiers chapitres, c'est vraiment un appel à s'intéresser à la sagesse de Dieu, un appel à écouter ce qui va venir. Et ce matin, j'ai retenu un chapitre pour nous. On ne va pas lire tous les chapitres 1 à 9, mais plutôt le chapitre 8, qui est encore cet appel à écouter la sagesse de Dieu et à la vivre. Donc nous allons lire à présent Proverbes chapitre 8, un très beau texte dans ce livre des Proverbes. Proverbes chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. » Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'étais établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source changée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines n'existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ce texte est un des plus artistiques, les plus poétiques de toute la Bible. Et si vous avez écouté, si vous avez lu, vous voyez que la sagesse ici est présentée comme une grande dame, une noble maîtresse de maison qui invite les gens à rentrer chez elle, à manger chez elle, à venir dans sa maison. Et donc chaque fois que vous entendez le « je » ou le « moi », c'est en quelque sorte la sagesse qui parle ici. Dans le monde littéraire, on appelle ça une personnification, c'est-à-dire ce principe de la sagesse est présenté comme une personne, ici une dame qui invite chez elle. Une personnification, c'est quand on prend une idée abstraite et on lui donne des traits d'une personne. En France, vous avez probablement vu ce tableau d'Eugène Delacroix qui s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Pendant un temps, c'était cette image qui était imprimée sur les billets de 100 francs. Et vous voyez cette dame au champ de bataille qui représente la liberté, qui parfois vaut se battre pour la démocratie, la liberté. C'était une valeur forte pour la France. Mais cette dame, c'était pas une vraie Eugène Delacroix, n'a pas vu cette dame un jour sur le champ de bataille. Il a exprimé le principe de la liberté par cette dame qui conduit le peuple. Salomon fait pareil ici avec la sagesse. Et aussi la folie, d'ailleurs, parce que en chapitre 9, verset 13, nous lisons aussi « La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable, rentrez chez moi. » Donc il y a ces deux dames, il y a celle Madame Sagesse, et puis il y a Madame Folie, toutes deux qui nous appellent à entrer chez elles. Toutes les deux invitent. Et cette manière que Salomon exprime les choses, c'est pour nous montrer que Être sage, c'est déjà reconnaître qu'il y a deux voies dans la vie, deux voies X et deux voies E, ou deux voies à suivre, deux voies à écouter. Et la sagesse en est une, la folie est une autre. Et il va encourager son fils, ses enfants, à suivre, à écouter la voix de la sagesse, cette dame qui appelle à entrer chez elle au lieu de la voix de la folie. Et encore ce matin, nous voulons reconnaître que dans un monde plein d'idées, plein de voix qui nous parlent, qui nous crient, j'espère que nous puissions entendre et répondre à celle de la sagesse, que nous puissions entendre cette voix au-dessus de toutes les autres, cette sagesse qui crie et qui nous invite à entrer chez elle. Cette sagesse qui finalement va aussi représenter la voix de Dieu, la voix de Christ, comme nous avons chanté ce matin dans nos cantiques. Alors pour mieux comprendre ce que Salomon veut faire, veut encourager ses fils à vivre dans la suite aussi de ce livre, et nous allons étudier des thèmes précis tout au long de cet été. Mais tout d'abord, nous voulons découvrir un peu cet appel de la sagesse. Et pour mieux comprendre ce que Salomon voit, on va se poser plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que la sagesse ? Qu'est-ce que la sagesse ? Et ensuite, on verra pourquoi elle est si importante pour nos vies. Et enfin, comment la voir ? Donc tout d'abord, qu'est-ce que la sagesse ? Bien, quand vous entendez le mot sagesse, et peut-être la définition biblique de la sagesse n'est pas ce qui vous vient tout de suite en tête. Souvent, quand nous en pensons sagesse, on pense à une intelligence ou bien une philosophie sophistiquée, une grande sagesse. Mais ici, ce n'est pas tout à fait le cas, tout au long du livre des Proverbes, et notamment dans notre chapitre. Vous voyez, dès le premier verset, que cette dame sagesse s'adresse à tout le monde. Verset 2, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Donc, cette voix de la sagesse, cet appel, s'adresse à tous, à monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire, les gens qui vont faire leur course à Carrefour, la sagesse est pour tous ces gens-là. Puisqu'elle se place à côté des portes à l'entrée de la ville, elle se place là où passe tout le monde. Et donc, la sagesse, c'est disponible pour tous, grands et petits, simples, intelligents. Tous peuvent accéder à cette sagesse. Donc, la sagesse n'est pas une philosophie très sophistiquée. Ce n'est pas quelque chose réservé à une élite intellectuelle ou à des grands philosophes. D'ailleurs, verset 1 dit, parle de l'intelligence aussi. La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix ? Et nous, on pense parfois à l'intelligence dans le sens du QI, une capacité académique très poussée. Mais ici, le mot, c'est plutôt en hébreu, le mot, c'est l'intelligence, mais le bon sens, la compréhension. Et finalement, on découvre dans la Bible et à travers ce livre des Proverbes qu'on peut être très instruit, très diplômé, très intelligent, un QI très élevé, et aussi être très peu sage. Et ce qui nous intéresse ce matin et dans la Bible, c'est cette sagesse. Ce n'est pas juste l'intelligence scolaire. D'ailleurs, un des versets des Proverbes, non, c'est chapitre 19, verset 27, que je trouve intéressante, où Salomon dit à son fils, « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science, les paroles de la sagesse. » Parfois, l'instruction, la grande instruction, peut même nous éloigner de la sagesse. Les plus grands philosophes pouvaient écrire des choses très, très intelligentes ou intéressantes, mais à côté, mener une vie de folie. Je pense à Rousseau, qui a abandonné femme et enfant. Et déjà, la question se pose à nous parents, quand nous voulons transmettre la sagesse. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants ? Est-ce que nous voulons surtout des enfants brillants, scolairement brillants, ou bien des enfants sages avec la sagesse de Dieu ? Voyons où nous mettons les priorités. Donc, vous voyez, déjà cet appel de la sagesse se lance à tous, simple, monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est aussi pour, bien sûr, les grands, ce n'est pas que pour les simples, c'est pour tous. Et nous voyons un peu plus tard, dans versets 15 et 16, que cette sagesse, elle dit, c'est par moi que les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. La sagesse est aussi très utile pour les responsables, parce que c'est eux, ils ont besoin de sagesse. Et on pense, notamment dans le cadre de ce livre, c'est intéressant de penser que Salomon, il s'adresse à son fils souvent, donc chapitre 2, verset 1, chapitre 3, verset 1, chapitre 4, verset 1, chapitre 5, verset 1, chapitre 6, verset 1, il dit « mon fils, écoute-moi, mon fils, écoute mes instructions ». Donc, on apprend par là qu'une bonne partie de la sagesse est souvent transmise entre parents et enfants, entre père et fils, entre mère, fils, mère, fille. Mais aussi, pensez à ce que Salomon, il est le roi, et donc ses fils sont les futurs... Ses fils sont les princes, ses fils sont ceux qui vont régner, qui vont prendre des responsabilités. Et donc, on peut concevoir aussi ce livre comme, on va dire, le cours de base des Sciences Po. Ça serait intéressant si les Sciences Po étudiaient Proverbes comme le cours de base. Et ça ferait beaucoup de bien à notre politique, à notre pays. Combien de politiciens ont détruit soit leur carrière, soit leur pays, non par manque d'intelligence, manque de diplôme, mais par manque de la sagesse dont je vous parle ce matin, manque d'intégrité, manque de caractère, par des scandales financiers, des scandales sexuels. D'ailleurs, c'est une grande partie des chapitres 1 à 9, notamment chapitre 5, 6, 7, où l'appel de Salomon à ses fils, c'est éviter la séduction sexuelle, parce que souvent ça peut vraiment détruire les vies des jeunes et des moins jeunes. Et combien c'est important pour ceux qui sont en responsabilité, des politiciens, mais tout responsable, de mener des vies intègres, qui sont sages. Donc oui, par moi, les rois règnent, par moi, les princes ordonnent ce qui est juste. Eux, ils ont besoin de sagesse. Je crois que cette fois-ci, j'ai le verset. Je me demande si ces jours-ci, un ministre aurait bien fait de lire quelques proverbes. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Vous voyez, c'est utile pour les politiciens. Donc c'est utile pour les simples, pour les petits, pour monsieur tout le monde, pour ceux qui font leur course à Carrefour. C'est utile pour ceux qui sont dans les palais et dans les chambres de ministres. Donc si c'est utile pour tous, si elle s'adresse à tous, si elle veut s'installer, si elle invite tous à s'installer chez elle, c'est quoi la sagesse finalement? Eh bien, nous arrivons maintenant à peut-être une définition de la sagesse selon Proverbe, selon l'Ancien Testament. La sagesse, c'est une compétence, c'est un savoir-faire dans les prises de bonnes décisions. Bien sûr, qui prennent en compte aussi l'éternité, la perspective éternelle, mais la sagesse, c'est une compétence, c'est un savoir-faire dans la prise des bonnes décisions dans ce monde où Dieu nous a placés. D'ailleurs, le même mot en hébreu, « hokma » pour sagesse, décrit souvent une aptitude artistique, un don. Donc la sagesse, c'est comme un don dans les prises de bonnes décisions, de décisions sages. La sagesse, c'est du savoir-vivre dans le monde que Dieu a créé et dans les circonstances où il nous a placés. La sagesse, c'est faire des bons choix en l'absence d'une loi ou d'une personne qui te dit exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là. Parce que c'est souvent ce qu'il faut. C'est impossible d'écrire une loi qui traite de chaque cas, de chaque être humain, dans chaque circonstance. D'où le besoin de sagesse. On ne va pas avoir une personne à côté de nous. Nos parents sont là, mais un jour, elles seront plus là. Et à ce moment, on a besoin de faire nos propres choix. D'où le besoin de sagesse. Et donc, c'est pour ça que souvent, la sagesse dans les proverbes est liée au discernement. À la réflexion, vous voyez verset 12, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. » Voilà ce qu'est la sagesse. Donc vous voyez, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre importance, quel que soit notre niveau de responsabilité, nous avons tous besoin de cette sagesse. Alors pourquoi elle est si importante dans nos vies? Deuxième question que ce passage va nous aider à comprendre. Pourquoi est-elle si importante pour nos vies, si précieuse, si utile? Eh bien, tout au long de ces chapitres, c'est vrai que Salomon vante l'importance et la valeur de la sagesse auprès de ses fils, de ses enfants, pour qu'ils écoutent ensuite les chapitres 10 à 31. Les premiers chapitres sont des grands appels à aimer la sagesse, à vouloir la sagesse, et il donne souvent des raisons pourquoi la sagesse est importante et précieuse. Et on pourrait donner plusieurs raisons pour lesquelles la sagesse est utile. on pourrait dire qu'elle apporte la réussite, elle apporte le succès. On trouvait ce mot dans notre chapitre 8. On pourrait dire qu'elle apporte le bonheur. Si vous vivez sagement, vous êtes plus heureux. On pourrait dire qu'elle apporte la santé. Si vous vivez selon les principes sages, vous aurez une meilleure santé. Et dans un sens, ces choses sont globalement vraies. Si vous mettez en pratique les principes sages de Dieu, il y a la réussite, la santé, le bonheur qui peut venir dans votre vie. Globalement vrai, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais ce n'est pas la raison que nous allons mettre en avant ce matin, que ni ce texte met en avant. La raison que la sagesse est si importante, elle va la donner notamment à partir du verset 22. Et à partir de ce verset, c'est cette dame sagesse qui est en train d'appeler tout homme à entrer chez elle. À partir du verset 22, elle va s'éclater dans une poésie exquise, exaltée, pour vanter ses mérites et nous dire pourquoi nous devons l'écouter, pourquoi nous devons vivre avec elle. Et quelque part dans les versets 22 jusqu'à la fin du chapitre, elle vous donne son CV. Alors imaginons que vous cherchez à embaucher quelqu'un, vous êtes responsable et que vous avez un tas de CV devant vous. Et vous consultez plusieurs CV rapidement et vous tombez sur un CV, une personne, date de naissance, avant l'univers. Expérience du travail. J'ai aidé à la création de l'univers, toute chose. Loisirs. Je danse, je joue avec les planètes et dans la présence de Dieu en permanence. Si vous tombez sur un tel CV, vous dites, ah, celui-là sort du lot. Je vais peut-être l'embaucher. Elle m'intéresse, cette dame. Et en fait, nous découvrons que la raison pour laquelle la sagesse est si précieuse, si importante pour notre quotidien, c'est que c'est la même que Dieu a utilisée pour créer l'univers. Et ce passage le dit de manière poétique et imagée, mais c'est ce qui ressort. La sagesse, dans sa manière de parler, dit « Si Dieu lui-même n'a rien fait sans moi, vous ne devriez pas non plus rien faire sans moi. » Vous savez, un peintre, il va prendre un pinceau pour faire son tableau. Et donc, à l'aide d'un pinceau, il fait une peinture. De la même manière, Dieu, quelque part, il a pris la sagesse comme outil pour créer l'univers. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a créé, mais avec la sagesse, avec sa sagesse. Et là, on découvre que cette sagesse dont on parle, ce n'est pas juste un principe nébuleux, comme dans les religions orientales, la sagesse qu'on recherche, mais c'est la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit avec sagesse, et ce qui émane de la pensée de Dieu et des idées de Dieu, et ce qui met en place dans notre univers, c'est ça la sagesse. Mais de manière imagée, la sagesse va célébrer le fait qu'elle était à côté de Dieu lors de la création, et donc elle veut être à nos côtés aussi dans le quotidien. Tout cela est une manière de dire que nous habitons dans un univers et un monde créé par Dieu, avec des principes que lui, il a mis en place. Ça veut dire que nous ne créons pas notre propre réalité. Nous ne créons pas nos propres cadres, nos propres règles, nos propres principes de vie. Notre existence se trouve chez Dieu, dans son univers. Et du coup, nous voulons habiter et vivre avec la sagesse qui vient de lui. Et une des choses qui va faire une grande différence entre un insensé et un sage, c'est ça, c'est de prendre conscience que nous vivons dans l'univers de Dieu, un monde que lui, il a créé d'après ses idées à lui, d'après sa sagesse à lui. Et ce qui va nous conduire dans la vie, c'est s'accorder avec cette sagesse. Par exemple, si vous débarquez en Angleterre, la conduite se fait à gauche. Vous ne pouvez pas juste décider que gauche et droit sont relatives, sont des reliquats d'une société autoritaire, sans vous mettre en danger ou sans mettre d'autres personnes en danger. Si vous allez en Angleterre, si vous habitez en Angleterre, vous acceptez le code de la route de l'Angleterre. Si vous venez en France, vous acceptez le code de la route français. Et c'est la même chose que nous découvrons ici. C'est Dieu nous a placés dans son monde, puisque c'était sa sagesse qu'il a créée et qui régit. Et maintenant, pour nous, c'est une démarche sage de suivre ses principes à lui. C'est une démarche insensée, stupide de faire fi de sa sagesse, notamment ce qui concerne des domaines précis dont nous allons parler dans les semaines à venir. Mais voilà, la colère, la langue, le mariage, l'argent, les amis, toutes ces choses. Voilà, nous vivons dans le monde de Dieu et qu'on nous mette en pratique la manière qu'il a conçu ce monde avec les conséquences et les définitions que lui donne de ce qui est juste et droit, eh bien, c'est comme ça que la vie porte du fruit. Donc, ce matin, nous avons vu que la sagesse est une aptitude accessible à tous à faire les bons choix. Nous avons vu ses atouts, notamment elle a participé elle-même à la création de Dieu, donc elle peut nous accompagner au quotidien. Et maintenant, la question qui nous intéresse tous, comment l'avoir? Comment avoir cette sagesse? Alors, je vais vous dire maintenant comment obtenir la sagesse de Dieu. Cette sagesse si précieuse, si accessible, si utile, si nécessaire pour notre quotidien. Le livre de Proverbes, les chapitres 1 à 9 notamment, vont dire comment obtenir, comment avoir la sagesse de Dieu. Alors, vous êtes prêts pour la réponse? La réponse des chapitres 1 à 9, comment avoir la sagesse de Dieu? C'est la vouloir, la chercher. Le verset 17 le dit, « Ceux qui me cherchent trouvent. » Mais il y a encore un verset plus fort, c'est le chapitre 4, verset 7, un beau verset qui est au cœur de ce livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7. « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. » Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse. Vous voulez la sagesse? Acquiers la sagesse. Alors ça, c'est parfois une drôle de réponse. On me dit, comment puis-je avoir la sagesse? Et la réponse, ayez la sagesse. Obtenez la sagesse. Si vous êtes dans l'administration française et peut-être vous demandez au téléphone déjà un parcours de combattant pour avoir la bonne personne, et puis vous dites, je cherche un dossier d'inscription pour mon enfant, comment puis-je avoir le dossier d'inscription? Et si la réponse est, ben, obtenez-la, cherchez-la. Vous dites, ça ne m'aide pas vraiment. Mais ici, la sagesse fonctionne ainsi. Et nous découvrons par cette manière de parler de Salomon tout au long de ces premiers chapitres, ceux qui cherchent la sagesse vont la trouver. C'est une manière de dire que la sagesse commence avec une disposition du cœur qui dit, moi-même, je ne suis pas sage en moi-même. Je manque, moi, de la sagesse. Alors je la veux, je veux l'acquérir. Et si on a ça en tête, voilà, on va vouloir écouter le reste du livre qui va nous rendre de plus en plus sages. Mais ça commence avec cette attitude, cette recherche, cette disposition du cœur qui dit « je ne suis pas sage ». D'où que le livre des Proverbes parle beaucoup d'arrogance et d'orgueil. C'est comme le contraire de la sagesse, c'est pas le manque de connaissances. Le contraire de la sagesse dans la Bible, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Comme verset 13. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, voilà ce que je hais, dit la sagesse. Ou j'aime bien ces versets, que ce sera des bons versets à prendre par cœur à nos enfants. Chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, dit la suite. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est déjà la sagesse de vivre comme ça et de se dire, je ne suis pas sage en moi-même, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et c'est comme ça qu'on obtient la sagesse, quand on l'aime, quand on la veut, quand on la cherche. Bien sûr, par la suite, on va découvrir que c'est Dieu qui donne la sagesse. Proverbe 2, verset 6 dit, l'Éternel donne la sagesse. Donc, c'est finalement le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et puis on découvre que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et oui, il le donne par des moyens concrets, il le donne à travers des parents qui nous enseignent, il nous le donne à travers des modèles qui vont nous donner un bon exemple de vie. Il va le donner à travers son église, des conseils des frères, il va le donner lorsque nous nous sommes plongés dans sa parole pour découvrir son univers et sa sainteté, et notamment son fils Jésus-Christ. Mais tout ça vient d'abord quand il y a une attitude du cœur qui le veut. Et ce qu'on trouve la même chose dans le Nouveau Testament, c'est quelque manque de la sagesse, qui le demande à Dieu, qui le donne. Donc voilà, qu'est-ce que la sagesse, cette aptitude à faire des bons choix dans la vie, qui prennent aussi en compte l'éternité, bien sûr, puisque nous vivons un monde où l'éternité existe. Pourquoi elle est si importante pour notre vie? Parce que cette sagesse a été là, à la création du monde, c'est elle qui régit toute chose, cet univers, Dieu l'a utilisé, c'est la sagesse de Dieu. Et comment la voir? Eh bien, on la cherche, on veut l'obtenir. Mais même là, Dieu nous a donné plus, parce que les proverbes ou ce texte pourraient rester assez abstraits. C'est vrai que cette dame sagesse, ce n'est pas une vraie dame, c'est juste une image littéraire. Comme ce tableau de la liberté guidant le peuple, c'est un beau tableau, vous pouvez le visiter dans le nord, Pas-de-Calais, je crois, en France. Mais elle nous aide à célébrer les principes de la liberté, de comprendre que la démocratie, c'est bien. Mais cette dame-là ne peut pas faire grand-chose pour la Corée du Nord, par exemple. Elle ne peut pas se déplacer en Corée du Nord et prendre des armes et apporter la liberté aux chrétiens, au peuple. C'est une idée abstraite. Et pareil ici, c'est une idée, c'est une bonne idée, c'est là toute la sagesse de Dieu qu'on veut célébrer. Mais pensez à Salomon lui-même qui a écrit ces beaux textes. Il avait une prouesse artistique, poétique, pour collectionner ses proverbes, pour en écrire un certain nombre, certainement, pour écrire des beaux passages. Mais lui-même, avec tout ça, il n'a pas pu conduire sa propre vie, toujours avec sagesse. Lui-même a écouté la voix de la folie, la voix de la séductrice. Et c'est pour ça qu'il nous faut plus qu'une idée. Il nous faut plus que cette réalité de la sagesse. Dieu a fait plus, il s'est incarné en Jésus-Christ. C'est vrai que certaines voient dans ce chapitre une description de Jésus lui-même. Je préfère dire que ce passage pointe vers Jésus-Christ. Ce passage décrit la sagesse comme un attribut de Dieu, comme une réalité, une idée. Mais justement, Jésus n'est pas une femme. Par contre, Jésus est venu, il s'est incarné, et lui, il a incarné, il a vécu cette sagesse bien mieux que Salomon. Lui-même a dit, en arrivant dans notre monde, il a dit aux gens autour de nous, vous savez, il y a plus ici que Salomon. Il y a une sagesse plus grande que Salomon qui est devant vous, dans ma personne. Et Jésus était le vrai fils de David, celui qui est plus grand, plus sage que Salomon lui-même. Et il est venu non seulement pour montrer la sagesse, pour l'enseigner, mais aussi pour prendre notre place, pour payer le prix de nos folies, de nos échecs, de toutes les fois où nous avons écouté la voix de la folie. Et la Bible dit qu'il devient notre justice, il devient notre sagesse. Aux yeux de Dieu, Dieu peut nous voir sages à travers son Fils Jésus-Christ. De sorte que oui, verset 35, le dernier verset, l'avant-dernier verset de notre texte, devient vrai, ce qui est dit de la sagesse, c'est aussi vrai pour Jésus. Hein. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. La sagesse parle, mais c'est aussi vrai pour Jésus. Ceux qui trouvent Jésus, cette sagesse incarnée, et obtient la faveur de l'Éternel. Lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous écoutons sa voix, il devient notre sagesse et il nous rend de plus en plus sages pour vivre et prendre nos choix. Parce que son exemple, son amour, sa croix, nous oriente dans la vie et nous rend réellement sages dans ce monde. Que nous puissions écouter cet appel de la sagesse. La folie appelle, entre chez moi. La sagesse appelle, entre chez moi. Laquelle vous allez écouter. Vous savez, quand vous sortez d'une bouche de métro, des fois, en ville, quand il y a du monde, on vous tend plein de prospectus, des restaurants, viens ici, viens ici, viens ici. À force, vous n'écoutez pas, vous jetez ça de suite. Maintenant, il y a des appels publicitaires tout le temps sur les lignes fixes. On répond même plus aux appels. Mais j'espère qu'une voix ce matin a pu résonner au-dessus de toutes ces offres, toutes ces appels, toutes ces invitations, celle de la sagesse à venir et à prendre à cœur ce que Dieu dit, sa sagesse et la vivre, que Dieu nous aide à le faire. Prions. Seigneur, merci pour ce livre des Proverbes qui contient des choses très concrètes, très pratiques pour notre vie. Merci pour ces chapitres d'introduction qui déjà donnent le ton et qui veulent inculquer dans nos cœurs une soif de cette sagesse, une oreille attentive. Et nous prions que ces jours-ci, pendant l'été, nous puissions prendre à cœur cet appel, réfléchir sur notre vie, faire le point avec toi, peut-être sur nos projets, nos manières d'agir, nos priorités. Voilà, avec la rentrée qui arrive dans quelques semaines, nous te prions de nous donner ce savoir-vivre, cette capacité à prendre des bons choix pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour notre Église. Nous te remercions de ce que Jésus-Christ est venu dans notre vie, dans notre monde, dans notre cœur, pour nous faire entendre sa voix, ses instructions qui sont infiniment sages. Et nous voulons encore le suivre ce matin. Que tu nous guides et nous révèles la voie à suivre. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.